Qui ne connaît pas cette fin du chapitre 16 de Matthieu ? Qui ne la connaît pas ? Qui ne s'est pas un jour demandé ce que cette parole de Jésus aux disciples voulait bien dire ? Car, pour un disciple, ces paroles ne sont pas très réjouissantes. Renoncer à soi-même, porter sa croix. Si Jésus souhaitait faire des adeptes, il s'y prend plutôt mal. En entendant cela, qui ne fuirait pas ? Pourtant, dans ces paroles, Jésus parle aussi de vie qu'on trouve en la perdant, que gagner le monde ne sert à rien pour son âme. Il parle aussi de gloire du Père, du Fils de l'homme qui vient. Bref, il parle en même temps de choses qui concernent tous les humains. Vie, âme, gloire, fils, monde. Il s'agit donc pour nous ce matin de dire quelques mots sur ces paroles peu réjouissantes, il faut le dire, afin d'éviter que certains traitent les chrétiens de masochistes. En fait, la raison de cette parole de Jésus vient d'une violente altercation qui a lieu entre Pierre et Jésus, vous l'avez entendu. Jésus est même obligé de traiter Pierre de Satan, ce qui n'est pas rien. Jésus reproche à Pierre d'être un scandale pour lui, car ses pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. En effet, Pierre refuse de croire ce que Jésus annonce en disant qu'il doit souffrir et être tué par les anciens, les grands prêtres et les scribes. Une telle issue de Jésus ne convient pas à Pierre. Quand Jésus dit à ses disciples « Si quelqu'un veut venir derrière moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive » au verset 24, il remet les choses en place pour Pierre, mais aussi pour les autres disciples qui l'écoutent. Car en prenant Jésus à part et en mettant en doute les paroles de son maître, Pierre ne marche plus derrière Jésus. Dans les versets 25, 26 et 27, c'est-à-dire les versets suivants, Jésus donne des raisons pour lesquelles un disciple doit renoncer à lui-même, se charger de sa croix et le suivre. Et à bien y regarder, Jésus semble dire que la vie de tous les humains se trouve en allant derrière lui. Écoutez, « Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. » Verset 26, « Que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme ? Ou que donnerait un homme en échange de son âme ?» C'est un propos universel. Mais de quelle vie Jésus parle-t-il donc ? Si vous avez bien écouté ces deux versets, Jésus parle de vie et d'âme. En fait, dans ces deux versets, Jésus ne parle que d'une seule et même chose, de l'âme, psyché en grec. Dans l'évangile de Matthieu, l'auteur utilise deux mots pour parler de la vie. La psyché, en grec, c'est notre texte, mais aussi la zoé, en grec aussi. Cela signifie que nous ne pouvons pas confondre ces deux manières de parler de la vie. En faisant une étude rapide des occurrences de ces deux mots dans l'évangile de Matthieu, on peut dire que la zoé, qui a donné en fait en français le zoo, la zoologie, la zoé désigne un lieu. Oui, la vie comme un lieu dans lequel les humains sont invités à entrer. À un homme qui lui demande « Comment avoir la vie éternelle ? Jésus répond au chapitre 19, verset 17, « Si tu veux entrer dans la vie Zoé, observe les commandements. » Mais c'est aussi un lieu qu'on hérite. Verset 19, chapitre 19, verset 29. « Et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères ou ses sœurs ou son père ou sa mère ou sa femme ou ses enfants ou ses terres ou ses maisons recevra au centuple et héritera la vie Zoé éternelle. » Pour résumer, la vie Zoé est un lieu extérieur à l'humain dans lequel on entre ou qu'on hérite. La vie psyché, qui a donné psychologie, est propre à chaque humain, une chose qui est en chacun et qui fait vivre chaque humain. Ce sera pour nous l'âme. L'âme est à soi et l'humain y a affaire tous les jours. Et dans notre texte de ce matin, Jésus parle uniquement de l'âme à ses disciples. Les traductions nous induisent là en erreur à traduire psyché tantôt par âme et tantôt par vie. L'âme apparaît dans ces deux versets non pas comme un lieu extérieur dans lequel il faudrait entrer, mais comme une chose à trouver en soi, déjà présente en tout humain. L'âme se présente, se perd et se trouve comme on trouverait ou on perdrait un objet. Il appartient donc à l'homme de trouver son âme. Écoutons à nouveau les quatre versets en faisant cette petite correction de traduction. Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver son âme la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Car que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme ? Ou que donnerait un homme en échange de son âme ? Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. » Trois choses sont à faire pour celui qui veut aller derrière Jésus. Renoncer à soi-même, se charger de sa croix et suivre. C'est le verset 24. Comme j'ai déjà dit, dans les trois versets suivants, Jésus donne les raisons pour lesquelles faire ces trois choses. Chacun des trois versets est introduit par la conjonction de coordination « car ». Les traductions omettent le « car » du verset 26, mais il est présent en grec. Trois choses à faire, trois raisons pour les faire. Je propose donc d'associer pour chaque chose à faire la raison que Jésus donne dans le même ordre et pointer pour chacune de ces choses ce que la raison associée fait ressortir. La première chose pour aller derrière le Christ est de renoncer à soi-même. Joao, tu peux revenir en arrière, là, s'il te plaît ? Encore ? Voilà. De renoncer à soi-même. Car celui qui voudra sauver son âme la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Bien sûr, le mot important de ce verset 25 est « à cause de moi ». Et bien sûr, il fait écho immédiatement avec « renoncer à soi-même ». Pour que Jésus soit premier à cause de moi, mon ego doit être mis en second, renoncer à soi-même. Voilà la condition pour trouver son âme. Pour bien comprendre, revenons à ce qui s'est passé entre Pierre et Jésus, juste avant. Alors que Jésus dit qu'il va mourir à Jérusalem, Pierre ne peut pas l'accepter, nous l'avons vu. Il peut d'autant moins l'accepter qu'il vient de confesser devant tous les disciples que Jésus est pour lui le Christ, le Fils du Dieu vivant. C'est au verset 16 du même chapitre. Pour Pierre, Jésus ne peut donc pas mourir, lui qui est le Fils du Dieu vivant. Ce n'est pas compatible avec l'idée qu'il se fait du Christ, car Pierre pense certainement que Jésus est immortel. À cet instant, Pierre ne renonce pas à lui-même. Il ne renonce pas à ce qu'il a imaginé lui-même du Christ. Pour Pierre, il n'y a pas de cohérence entre ce qu'il s'imagine du Christ et l'annonce de sa mort. Tout, mais pas la mort. Sa confession est pourtant sincère. Jésus lui dit même qu'elle ne vient pas de lui, mais de son Père. Le problème de Pierre, c'est qu'il ne renonce pas à tout ce qu'il a mis derrière les mots « Christ, Fils du Dieu vivant ». Ce que Pierre a vécu avec Jésus ce jour-là, nous le vivons encore 2000 ans après. Je pense, en toute sincérité, que nous pouvons tous faire la même confession de Pierre. Mais que met-on derrière les mots « Christ, Fils du Dieu vivant » ? Certains chrétiens ont pensé que le Covid ne pouvait les atteindre car le Fils du Dieu vivant les protégerait. C'est faux ! Voilà ce qu'est renoncer à soi-même. La mort a frappé il y a 2 semaines un jeune pasteur, père de 3 enfants. Que fait donc le Fils du Dieu vivant ? Rien ? Voilà ce qu'est renoncer à soi-même. L'extermination systématique a touché tout un peuple entre 1942 et 1945. Où était le Fils du Dieu vivant ? Absent ? Voilà ce qu'est renoncer à soi-même. Renoncer à toutes les idées que nous nous faisons sur le Christ et sur Dieu, c'est renoncer à soi-même, c'est venir derrière le Christ et c'est trouver son âme, c'est trouver sa vie. Et trouver son âme a été pour Pierre de devenir cette pierre sur laquelle le Christ a construit son Église. Et pour nous qui sommes ici ce matin, trouver son âme, c'est quoi ? Je disais tout à l'heure que l'âme était propre à chacun. On voit maintenant qu'on ne peut trouver son âme sans le Christ, tout seul. L'âme de l'humain, l'âme dont tous les humains disposent en eux, porte la marque du Christ. Elle ne se trouve que par le Christ. C'est en regardant à Christ, c'est-à-dire à l'extérieur de soi, qu'on trouve la vie à l'intérieur de soi. La deuxième chose pour aller derrière le Christ est de se charger de sa croix. Car que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme ? Ou que donnerait un homme en échange de son âme ? Tu peux passer le slide suivant ? Non, c'est avant. Ah ben elle a disparu. Ah. Qui se charge de sa croix, oui. Tu reviens en arrière. Voilà. Pardon, excusez-moi. La deuxième chose pour aller derrière le Christ est de se charger de sa croix. La grande illusion de l'humain est de croire que sa vie dépend de l'argent qu'il gagne. Que sa vie dépend de l'argent qu'il gagne. Vrai ? Plus il a de biens, plus il est assuré de bien vivre. On y croit tous. L'humain se dit cela car il faut bien manger et se vêtir pour vivre. Jésus montre que vivre, c'est trouver son âme. Gagner le monde entier n'y changera rien. Écoutez ce que Jésus dit sur l'âme, aussi dans l'évangile de Matthieu, dans son grand discours qu'on appelle le sermon sur la montagne, chapitre 6, verset 25. « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre âme, et pas la vie là, pour votre âme, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. L'âme n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement ? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas « Que mangerons-nous ? Que boirons-nous ? De quoi serons-nous vêtus ?» Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Jésus nous apprend que l'humain ne peut pas gagner son âme. Il ne peut rien donner en échange de son âme. Tout ce que l'humain peut gagner ne sert à rien pour son âme, ne sert à rien pour sa vie. Aller derrière Jésus, c'est admettre que l'échange, c'est-à-dire le principe sur lequel s'est construit le monde, ne fait pas vivre l'humain. Seule l'âme fait vivre l'humain à condition de la trouver par le Christ. Voilà une lourde croix à porter. Voilà une lourde croix à porter. Se charger de sa croix, c'est se dire chaque matin, je vous dis bien chaque matin, que je ne vis pas de l'argent que je gagne ou que je ne gagne pas d'ailleurs, mais que je vis d'avoir trouvé mon âme par le Christ. La troisième chose et la dernière chose pour aller derrière le Christ est maintenant de le suivre. Tu peux passer le slide ? Car, verset 27, le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon sa pratique. Suivre, c'est pratiquer. C'est faire. Maintenant que l'humain a renoncé à lui-même et s'est chargé de sa croix, il est prêt à suivre, donc à pratiquer. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le verset 27 est composé de deux propositions indépendantes, reliées par « et alors ». On peut comprendre cette liaison de deux manières. D'abord, on va dire d'une manière séquentielle. Le Fils vient dans la gloire de son Père, puis il rend à chacun selon sa pratique. C'est souvent comme ça qu'on le comprend d'ailleurs. Le Fils de l'homme serait alors un juge qui récompenserait les bonnes pratiques. La question serait alors, mais que rendra le Fils de l'homme à chacun ? Que rendra-t-il ? des bons points, une médaille, on retomberait alors dans un système d'échange duquel l'humain s'est éloigné en se chargeant de sa croix. On peut comprendre ce « et alors » d'une autre manière, et d'une manière que j'appellerais « simultanée ». Et bien sûr, vous entendez bien que c'est ma préférence. Le Fils de l'homme, je répète ce verset, le Fils de l'homme doit venir dans la gloire du Père avec ses anges, et alors, on pourrait dire, c'est-à-dire qu'il rendra à chacun selon sa pratique. La deuxième partie du verset devient alors une explication de la première. Je préfère cette lecture simultanée car la pratique dont il est question n'a qu'un seul but, au fond, rendre gloire au Père, bien sûr. On est bien d'accord que la pratique est complètement dégagée de tout enjeu vital pour l'humain. L'humain a trouvé son âme. Le seul but de la pratique est de rendre gloire au Père. Et c'est le Fils de l'homme, en venant dans le monde, qui authentifie cette gloire dans la pratique des humains. Souvenez-vous du récit de la résurrection de Lazare dans Jean 11. Quand Jésus apprend que Lazare est malade, il dit, écoutez bien, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de l'homme soit glorifié par elle. Dans le récit de Lazare, c'est Jésus qui pratique. Mais maintenant que Jésus est monté au ciel, ce sont les humains qui pratiquent. Et le Fils de l'homme authentifie la pratique des humains qui est pour la gloire de Dieu. C'est ainsi que le Fils de l'homme vient dans la gloire de son Père. Le Fils de l'homme fait corps avec les humains. D'ailleurs, le Christ n'est-il pas le chef de l'Église? Bien sûr, pas l'Église que nous connaissons, mais l'Église constituée de tous les humains qui pratiquent en vue de la gloire du Père. C'est l'Église de tous ces gens qui ont renoncé à eux-mêmes et qui se sont chargés de leur croix pour trouver leur âme. Mes chers amis, que le Seigneur nous conduise lui-même sur ce chemin étroit. Jésus nous dit ce matin, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Amen.